Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à toutes et à tous, il est 12h partout en Côte d'Ivoire au sommaire de ce journal. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification a animé une conférence de presse sur la modernisation et la sécurisation des services d'état civil et d'identification. Dans ce journal, nous vous proposerons un extrait de sa conférence de presse et ensuite, nous le retrouverons dans l'invité de la rédaction de ce 12h. La vaccination contre le paludisme en Côte d'Ivoire est désormais effective avec le début de cette campagne lancée hier lundi dans la commune d'Abobo. Et puis, présidentiel au Rwanda, Paul Kagame en tête avec 99,15% des voix selon les résultats partiels de la commission électorale. Voici pour l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12h. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI, Ago Christian Kodia, était face à la presse hier lundi dans la commune de Makori. Cette conférence avait pour but de sensibiliser et impliquer la population et les médias dans le processus de modernisation du système de l'état civil et de l'identification pour la sécurité et l'efficacité de l'administration. Ago Christian Kodia en a profité pour expliquer le processus d'inscription sur le registre national des personnes physiques RNPP qui se compose en trois volets, à savoir l'identité, l'état civil et la gestion des flux migratoires. Ago Christian Kodia, directeur général de l'ONESI.
Nous prenons les photographies des différents registres qui sont là. Ensuite, nous passons un processus d'indexation pour qu'on puisse les retrouver de façon rapide et automatique. Cette action se poursuit. En même temps que nous installons le logiciel, nous sommes en train maintenant de préparer l'administration. On fait en sorte que les nouveaux entrants rentrent directement dans le RNPP. Donc, les nouvelles naissances sont captées automatiquement. Mais ensuite, ceux qui sont nés avant, on prend ces registres-là et on les numérise. C'est la raison pour laquelle, quand on ne vous retrouve pas dans un registre, par exemple, la loi vous permet d'être inscrit dans ce registre à travers la loi spéciale. Donc, la numérisation est vraiment la base du travail que nous faisons pour ce que j'appelle l'historique. Et on va le faire pour tous les centres d'état civil qui existent en Côte d'Ivoire. Un exemple concret, la sous-préfecture de Bassam ne produit plus d'actes, mais avait produit des actes avant que la mairie n'arrive. Mais néanmoins, on a numérisé tous les actes qui sont à la sous-préfecture de Bassam, parce que si votre extrait date de naissance a été fait à la sous-préfecture, c'est là-bas qu'il a été créé. Donc, on est dans vraiment une grande politique de numérisation qui va s'accentuer le mois prochain, qui va prendre tout le territoire national. Nous avons reçu une subvention pour le faire. On va le faire en même temps pour finir définitivement avec ces cas de registre manquants, disparus ou qu'on ne retrouve pas.
À l'instant, Ago Christian Kodia, directeur général de l'ONESI. Un mot de santé dans cette édition. Hier lundi marque le lancement effectif de la campagne de vaccination contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Ce nouveau vaccin est désormais inclus dans le programme de vaccination de routine qui comprend déjà 14 vaccins et concerne les enfants de 6 à 23 mois. La cérémonie de cette importante activité s'est tenue à la mairie d'Abobo en présence du Premier ministre, des partenaires techniques et financiers du système d'aide santé et des pays amis de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Paul Bénédicte Boulou.
Ce jour marque une étape importante et historique en Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme. Fatim Tall, chef de bureau OMS au nom des partenaires techniques et financiers.
Il garantira sans aucun doute que nos enfants survivront non seulement au-delà de leur premier anniversaire, mais parviendront désormais à leur âge adulte en bonne santé grâce à cette intervention innovante dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, avec les activités de vaccination qui débutent aujourd'hui.
L'introduction du vaccin dans le PEV fait partie de la vaccination de routine. Pierre Demba, ministre de la Santé.
Cette décision marque une avancée significative pour la protection de nos enfants contre cette maladie. Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel de l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine en Côte d'Ivoire. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire et particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans.
Gavi dit s'assurer que ce nouveau vaccin puisse entrer dans le protocole de traitement. Sa directrice exécutive, Dr. docteur Sania Nichard.
Nous avons un outil dans nos mains qui va nous permettre de pouvoir traiter la question du paludisme et pouvoir connaître des succès significatifs pour cette génération. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle histoire et Gavi va s'assurer également que tous les différents éléments sont mis en œuvre de sorte à ce que ce vaccin puisse aider la population et assurer un meilleur avenir.
Selon le ministère de la Santé, la protection de ce vaccin antipaludique chez les jeunes enfants dure jusqu'à l'âge de 7 ans.
Parlons à présent politique et rendons-nous à Quibli dans la région du Guémon où le RHDP mobilise ses militants et sympathisants sur le terrain pour leur inscription sur la liste électorale pour les échéances électorales à venir. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tampi.
L'esplanade de la radio de Quibli a été le lieu où militants et sympathisants du RHDP se sont retrouvés pour marquer leur mobilisation. Occasion pour la présidente de l'Union des femmes du RHDP de Quibli, Pauline Traoré, de sensibiliser.
Vous allez avoir vos enfants qui ne sont pas sur la liste électorale. Maman, le moment va venir. Nos frères vont passer vers vous. Mettez à leur disposition vos enfants qui viennent d'avoir 18 ans pour qu'on puisse les inscrire sur la liste électorale.
Pour le secrétaire départemental du RHDP de Quibli, tout ceci répond à un besoin mondial, Seydou.
Le département de Quibli a désormais basculé au RHDP. Vous pouvez aller dire au président du RHDP, son excellence Alassane Ouattara, que vos soldats sont prêts à suivre vos ordres pour la victoire du RHDP dans toutes les batailles électorales de 2025.
Le coordonnateur principal du RHDP dans la région du Guémon, Célestin Serredo, d'afficher l'importance de la révision de la liste électorale pour les électoraux en vue.
Qui vote, c'est celui qui a la carte d'électeur. On peut faire meeting aujourd'hui, cette place-là sera remplie. Mais demain, pour aller voter, quand on regarde dans les rangs, 30 personnes qui sont dans les rangs. Je suis venu donc vous mettre à la disposition de tous les responsables du RHDP du département de Quibli pour avoir sa carte d'électeur.
Autre sujet au cœur de cette journée du militant, la tenue de la cérémonie d'hommage au chef de l'État dans la région du Cavali. Stéphane Adams, de retour de Quibli, Radio de la Paix.
Formation professionnelle. L'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP a ouvert ses portes au grand public lundi à son siège en zone 4C à Abidjan. C'était à la faveur de la 10e journée mondiale des compétences des jeunes initiés par le système des Nations Unies. Sur les objectifs de cette journée portes ouvertes et les offres de formation, écoutons les explications de la directrice générale de l'AGFOP, Karitia Koulibaly Demediros.
Alors, nous sommes le 15 juillet et depuis 2014, le système des Nations Unies a instauré cette journée comme étant la journée mondiale des compétences des jeunes. Nous avons tenu donc à célébrer cette journée pour la 10e édition et nous en avons profité pour ouvrir nos portes à tout le public, à tous les jeunes, à tous les partenaires pour mieux faire connaître l'AGFOP qui est vraiment un instrument à leur disposition pour le développement des compétences. On a présenté donc au public nos différentes offres, à savoir des offres de formation en formation par apprentissage, c'est-à-dire une formation duale 75% en entreprise, 25% théorique, des formations qualifiantes de courte durée, des formations en entrepreneuriat, parce que l'AGFOP a été créé en 1992, il y a 32 ans donc, pour pouvoir permettre de contribuer à résorber l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc ces formations que nous proposons viennent en complément de ce qui se fait déjà dans la formation initiale et donc nous souhaitons que vous puissiez être le porte-voix de l'AGFOP pour diffuser cette information-là partout. Ici à Abidjan, à l'intérieur du pays, où l'AGFOP a 15 représentations et pour lesquelles nous aurons 7 nouvelle représentation d'ici à la fin de l'année. L'objectif étant d'être représenté dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire.
La directrice générale de l'AGFOB, Karitia Koulibaly Demediros, au micro de Jean-Claude Mabilla. Un sorcier du numérique est toute personne diffusant de fausses informations à des fins malveillantes. Ce terme a été défini au cours d'un panel organisé par la société civile Africanisme hier lundi sous le thème « Tous responsables, stop aux sorciers du numérique ». Au cours de ce panel, les populations ont été invitées à vérifier toute information avant de la partager, nous rapporte notre reporter Christelle Yesso.
Ce panel a été l'occasion de relever les différents types de fake news existants. Mélane Cuny, journaliste blogueuse.
Lorsqu'on parle de fake news, c'est une information mensongère délivrée dans le but de manipuler ou tromper un auditoire. La désinformation, c'est une information fausse et elle vise à nuire. La mésinformation, elle est fausse, mais elle n'est pas délibérément créée pour nuire. Ensuite, on a la malinformation. Elle est basée sur la réalité, mais utilisée aussi pour nuire.
Les auteurs des fake news sont dénommés « sorciers du numérique », un terme que nous explique l'activiste web Sherif Tal.
Ce sont des personnes qui s'adonnent aux fake news, aux informations non crédibles, non vérifiées, non sourcées.
Selon lui, plusieurs raisons sous-tendent la diffusion de fausses informations.
Depuis la monétisation de certaines pages, ces personnes-là créent plus de contenu pour se faire rémunérer que de contenu pour informer l'opinion publique. Ils préfèrent lancer des fausses informations sur même des personnalités pour être suivis et de parler des vraies informations.
Les panélistes partagent quelques astuces pour vaincre les fake news.
Je posais la question, lorsque je partage le contenu, quel est l'impact que je recherche et quel est l'impact que ce contenu aura sur les personnes et sur mon entourage?
Le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est d'essayer de sourcer son information. Est-ce que l'information a été partagée par des sources crédibles, c'est-à-dire journalistiques, ou par des personnes insensées et crédibles qui relaient des informations?
Ce panel premier du genre est une initiative de la société civile Africanisme.
D'Abidjan, prenant la direction de la région de la Bagoué, où le Premier ministre Robert Bugré-Mombé a procédé le vendredi 12 juillet dernier à l'inauguration de l'usine de transformation de la noix de cajou de Boundiali. Le compte rendu de notre correspondant régional, Tommy Corona.
Entendre le Premier ministre, la machine de la transformation de l'anacarde est désormais lancée, Robert Bugré-Mombé.
Cette usine que vous voyez, c'est la première étape parce que selon le programme déterminé par vos enfants, par nos ministres et par les investisseurs qui font confiance à la Côte d'Ivoire et qui font confiance à Boundiali, cette usine sera multipliée par deux.
Maria Toukone, maire de Boundiali et ministre de l'Éducation nationale, mentionne ici l'impact positif multiforme de cette infrastructure ultra moderne.
Elle commence aujourd'hui avec 50 tonnes par jour, soit 18 000 tonnes par an. Mais à terme, ce sont 90 000 voire 100 000 tonnes qui seront transformées localement. On irait jusqu'à 150 000 tonnes selon l'évolution. L'usine emploie 2 000 personnes aujourd'hui. Mais à terme, nous aurons 6 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Cette usine est une aubaine pour l'environnement.
Initiative louable et salutaire au dire des populations. Témoignage.
Madame Dao, c'est une grande opportunité pour nous. C'est permettre d'abord à la région de se développer en donnant de l'emploi aux jeunes pour ne pas qu'ils s'adonnent à des pratiques pas bien. Et ça fait partie du développement.
Soro Kartiamo Emile, une grande marge de la population va bénéficier d'emploi.
Bâti sur une superficie de 10 hectares dans le village communal de Tombougou Samoroso, cet établissement est le plus grand d'Afrique de l'Ouest en matière de traitement et de transformation de l'anacarde. Tommy Corona, de retour de Boundiali, Radio de la Paix.
Après la Bagoué, mettons le cap sur la région du Bounkani où, pour la mise à l'échelle du projet DEPOCI, le programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire va distribuer 150 tonnes d'engrais MPK et durée aux producteurs de vivriers de la région. Financé par la BAD, la Banque africaine de développement et le Japon, ce projet vise à booster la production agricole dans cette région. C'est ce que nous apprend de Bouna, Jérôme Kouassi, notre correspondant en région.
L'objectif du programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire a été clairement et largement expliqué aux producteurs concernés par Kona Kwadio Lucien, le directeur régional de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières du Bounkani.
Et donc, nous voulons vous encourager afin que vous puissiez utiliser ces engrais-là dans vos champs. Notre objectif, c'est de parvenir à la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, on ne doit pas dépendre de quelqu'un. Nous devons produire et s'autosuffire. C'est-à-dire, notre production local doit nous permettre de manger à notre faim.
Le chef de zone Anader Bouna a mis en garde les producteurs bénéficiaires du programme contre tout coulage de ces intrants estampillés qui se retrouvent très souvent dans les magasins du marché. Sommet dommé intransigeant.
Je vais vous informer que ces engrais sont estampillés. Si vous les amenez sur le
marché, celui qu'on a attrapé en train de vendre cet engrais-là, il est responsable. Ça a été financé par la BAD, ça veut dire que tous les pays africains et le Japon. Donc c'est fait pour être utilisé. Gardez-vous de mettre ça sur le marché, parce que si vous mettez sur le marché qu'on vous attrape, vous allez faire la prison. Donc je voudrais vraiment, une fois de plus, vous inviter à utiliser cet engrais à bon escient. Nos services se tiennent à vos côtés en ce qui concerne les formations, en ce qui concerne l'encadrement. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler.
La région de Bouna est desservie par deux plans d'eau riches en bas-fonds fertiles, des bassins versants des fleuves Komoué et Volta Noir. Mais cette région pôle agricole possède peu de retenue d'eau pour une production vivrière durable et à toute saison face au réchauffement climatique. Jérôme Kwasi Kru de Bouna, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, en Gambie, les députés gambiens ont rejeté ce lundi une proposition de loi qui aurait levé l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015, après des mois de controverses et de pressions internationales. Le groupe de défense des droits humains et les Nations Unies avaient exhorté les députés à rejeter la proposition de loi, affirmant qu'elle menaçait des années de progrès et aurait fait de la Gambie le premier pays à annuler l'interdiction des mutilations génitales féminines. Au Rwanda, c'est désormais officiel. La présidentielle a offert un nouveau plébiscite au tout-puissant président Paul Kagame, qui compte 99,15% des voix sur 79% des bulletins dépouillés, prolongeant ainsi de 5 ans son règne sur le pays entamé il y a 30 ans. Si cette tendance se confirme, il pourrait réaliser un score encore plus supérieur à ses 99,79% de la présidentielle de 2017, après avoir obtenu 95,05% en 2023 et 93,08% en 2010. Place maintenant à l'invité de la rédaction qui n'est autre que le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI, qui dit tout sur le processus d'identification des personnes physiques. Invité de la rédaction, Ago Christian Koudia apporte des précisions sur les efforts de sa structure pour identifier le plus de personnes vivant en Côte d'Ivoire. Ago Christian Koudia, directeur général de l'ONESI, répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour monsieur le directeur général, Ago Christian.
Bonjour monsieur Soro.
Un acte de naissance, qu'est-ce que c'est exactement et quelle importance pour l'homme?
Un extrait d'acte de naissance, c'est le document par lequel l'administration ou l'État reconnaît un individu qui peut être un national ou pas forcément un national, mais le reconnaît dans ses registres comme étant né sur son territoire. Et c'est par cet acte-là que l'État lui donne une identité légale avec laquelle il peut évoluer, accomplir tous les actes administratifs, mais surtout bénéficier de tout ce qu'il y a comme services sociaux, voire vraiment garantir son existence légale dans le pays.
À vous entendre, l'acte de naissance est donc de la plus grande importance.
Tout à fait, un acte de naissance, c'est vraiment un document très très important qui garantit vraiment la citoyenneté, la vie d'une personne dans la société dans laquelle il vit et lui permet d'interagir avec tout le corps social et économique de son pays.
Et quand peut-on obtenir l'acte de naissance et comment peut-on l'obtenir?
L'obtention de l'acte de naissance, c'est surtout à partir de la déclaration de naissance. Donc dès l'instant que la déclaration de naissance survient, que ce soit en milieu hospitalier, ce que nous encourageons fortement, ou malheureusement pas en milieu hospitalier, il faudrait tout de même que cet acte-là soit déclaré. Donc la première étape, c'est la déclaration de la naissance ou bien du fait d'état civil qui peut être aussi une naissance ou un décès. Et donc l'information est portée à l'attention de l'officier de l'état civil, qui est le maire ou le sous-préfet, ou la personne qui a reçu mandat pour, et donc cette personne va enregistrer cette personne dans des registres. Et c'est sur la base des informations que maintenant on va délivrer un acte de naissance ou un extrait d'acte de naissance.
Monsieur le directeur général, Ago Christian, 3 millions d'Ivoiriens seraient sans acte de naissance et une naissance sur 5 ne serait pas déclarée dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous confirmez?
Je pourrais tout de suite dire qu'on parle de 3 millions de personnes, mais pas nécessairement d'Ivoiriens, parce que en matière d'état civil, on a le principe de la déclaration universelle. Donc, toute personne ivoirienne ou non, diversifiée sur l'étendue du territoire ivoirien. Tous les faits doivent être portés à la connaissance de l'État civil ivoirien. Donc, c'est 3 millions environ de personnes, mais pas forcément 3 millions d'Ivoiriens. Ça veut dire naturellement qu'en termes d'Ivoiriens, il y aura sûrement un peu moins, beaucoup même moins, comparé au recensement général de la population. Maintenant, de ces 3 millions de personnes qui ne sont pas déclarées, il faut maintenant mettre en place tous les systèmes qui vont permettre à l'administration de se rapprocher d'eux et de faire en sorte qu'on peut plus facilement capter leurs déclarations.
Parce que l'administration serait loin de ces personnes ou qu'est-ce qu'il explique?
Pas toujours. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un maillage territorial en termes de sous-préfecture ou même de commune assez élevé. Mais le plus souvent, lorsqu'une naissance arrive, ou un décès, se déplacer pour venir au niveau de l'administration pour faire la déclaration et puis retourner, ça fait un peu beaucoup. Mais le plus souvent, l'administration qui veut vraiment faciliter la tâche aux populations met tout en œuvre pour être présente exactement le plus proche possible des personnes pour augmenter ce taux-là pour que les déclarations soient de plus en plus facilitées. Mais la déclaration incombe aux parents ou à toute personne qui a connaissance d'un fait d'état civil. Et la loi a même évolué, qui a étendu la durée de déclaration qui était au départ de 15 jours. Maintenant, on a 90 jours pour pouvoir faire la déclaration.
Vers les populations, dites-vous, l'administration va aller. Question de se rapprocher de celle-ci. Ça veut dire quoi?
En fait, maintenant, le nouveau système fait en sorte qu'on parle maintenant de points de collecte communautaire et de points de collecte sanitaire. Donc, du coup, y compris dans la communauté, déjà, les déclarations peuvent se faire dans la communauté à travers le représentant communautaire qui est désigné par le sous-préfet, par un arrêté, ou bien au niveau de la sage-femme lors de la naissance dans un hôpital. Et ces faits-là sont automatiquement captés dans la base de données de l'ONESI qui permet plus rapidement de donner un essai de date de naissance.
Alors, dans ce cadre, quel est le message que vous adressez aux populations relativement à l'importance de déclarer les naissances?
Le message principal qu'on peut donner, c'est qu'aujourd'hui, l'existence légale d'une personne fait partie de ses droits. Comme on dit, une identité n'est plus un privilège, c'est un droit. Et donc, l'État met en place toutes les infrastructures, tous les moyens nécessaires pour que chaque personne née en Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ce droit-là. On souhaiterait vraiment que toutes les personnes qui sont dans une situation où ils n'utilisent pas leur date de naissance ou n'ont pas été déclarés, profitent par exemple du contexte de la loi spéciale de rétablissement d'identité de déclaration de naissance pour pouvoir obtenir leur numéro national d'identification et obtenir un extrait de date de naissance qui maintenant est sécurisé et unique et va leur permettre d'accomplir tous les actes de la vie civile. Donc j'appelle vraiment toutes les populations à nous faire confiance, à venir dans les mairies, dans les sous-préfectures, auprès des officiers d'état civil où nous installons le nouveau dispositif qui donne maintenant un état civil beaucoup plus sécurisé. Et la chose la plus importante maintenant, dès l'âge de 5 ans, vous pouvez faire votre carte nationale d'identité et avoir votre NNI.
Merci, monsieur le directeur général Ago Christian.
Merci beaucoup, monsieur Soro Adams.
À l'instant, l'invité de la rédaction avec Ago Christian Koudia, le directeur général de l'ONESI, il répondait aux questions de Soro Adams. Fin de cette édition, mais avant le rappel des titres. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification a animé une conférence de presse sur la modernisation et la sécurisation des services d'état civil et d'identification. C'était hier dans la commune de Makori. La vaccination contre le paludisme en Côte d'Ivoire est désormais effective avec le début de cette campagne lancée hier lundi dans la commune d'Abobo. Et puis présidentiel au Rwanda, Paul Kagame en tête avec 99,15% des voix selon les résultats partiels de la commission électorale indépendante. Merci de nous avoir suivis. L'information sera de retour à 15h, mais avant, dans un court instant, la revue de la presse ivoirienne proposée par Aoussi Poutin.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous demande de livrer la guerre au paludisme en faisant vacciner nos enfants qui ont entre 6 et 23 ans.